Parlons éco-rénovation, le tour des régions avec Sofinco, Sud Radio et Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 18h25, nous sommes en direct ici dans un écrin architectural au Musée d'Art Contemporain. On ne pouvait pas rêver mieux, il fait beau, il fait bon à l'intérieur. On va parler effectivement de ce fameux Tour de France. C'est une première date que nous faisons, nous on inaugure ce Tour de France de la rénovation énergétique pour s'adresser aux Français. On s'adresse à eux, là où ils se trouvent, dans toutes les villes de France. C'est un pari que nous avons pris avec Radio Immo et notre partenaire de Sud Radio. Nous serons à l'antenne sur Sud Radio jusqu'à 18h55 et ensuite avec mon ami Cécile de Minibus, je reprendrai le signal depuis Paris et nous serons en duplex pour une heure d'émission grand public avec l'ensemble des 89 fréquences de Sud Radio pour parler aux Français et leur donner les clés de décryptage de la rénovation énergétique. Un premier plateau, mesdames et messieurs, justement pour essayer de voir comment finalement les représentants, les acteurs de la filière peuvent accompagner au quotidien les Français sur l'ensemble du territoire. Bonsoir Julien Coisic.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le directeur de l'espace France Rénove au CREAC. Hein. Vous nous en parlerez tout à l'heure. C'est une association où vous gérez une grande partie de votre territoire. On en parlera tout à l'heure. Merci de venir avec nous sur ce plateau. Vous allez nous donner les clés de compréhension de l'action que vous menez au quotidien pour améliorer la vie des Français. Jean-Yves Labatte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le président de la CAPEB Nouvelle-Aquitaine. Vous représentez les artisans en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous demander de bien vous rapprocher du micro pour qu'on vous entende bien. Et merci, vous arrivez de Dax, d'être venu sur le plateau ici au Musée d'Art Contemporain. Un grand merci également à Claudine Bichet. Bonjour. Bonsoir plutôt. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes la vice-présidente de la métropole de Bordeaux. Vous êtes première adjointe à la ville de Bordeaux en charge des finances, du défi climatique, de la transition énergétique et de l'égalité homme-femme. Sacrée délégation quand même.
Ben oui, c'est pas un hasard si tout est rassemblé voilà. Au même niveau.
Voilà. Et on était d'ailleurs à l'Hôtel de Ville il n'y a pas si longtemps avec Pierre Urmic, puisque j'ai eu le plaisir d'animer une émission avec Le Figaro qui s'appelle Les Clés de la Ville, une très très belle émission. Merci d'être avec nous, de partager également votre expertise, votre analyse.
Avec plaisir.
Alors, ensuite, nous avons notre ami Laurent Permas, éditorialiste, le grand monsieur de la rénovation énergétique et directeur éco-transition chez Sofinco. Bonsoir Laurent Permas.
Bonsoir Sylvain.
Voilà, on se retrouve, on ne se quitte plus, hein, puisqu'on est ensemble tous les samedis matins dans Parlons Immo, et vous dirigez finalement dans ce média la verticale, on peut dire ça comme ça, rénovation énergétique, où vous parlez éco-transition chaque samedi matin à l'ensemble des Français. On va mettre les pieds dans le plat, Laurent, les définitions de la rénovation énergétique, on va donner un petit peu un cadre pour savoir exactement de quoi on parle.
Voilà, c'est presque un devoir de philosophie, hein. Vous avez deux heures, parce que c'est tellement vaste, et puis ça dépend quel angle on prend. Est-ce que c'est un angle institutionnel? Est-ce que c'est un angle professionnel? Est-ce que c'est un angle d'impact sur notamment le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est un angle justement de réduction aussi de la couche d'ozone, en tout cas de tous ces éléments? Donc moi je dirais que la rénovation, c'est essentiellement pouvoir engager des travaux concrètement pour prendre soin de son logement. Et dans ces travaux, il y a un impact énergétique et un impact aussi de confort de vie, notamment pour le bien vieillir. C'est pas seulement l'énergie, hein, c'est sur le bien-être. Et dans ce bien-être, en fait, il y a des défis majeurs. Il y a deux grandes transitions en France, la transition énergétique au travers des accords de Paris, avec une réglementation quand même qui est assez forte, hein, qui est contraignante, hein, avec des étiquettes. Étiquette G, on ne peut plus les louer. Et une deuxième transition, en fait, qui est même un choc, c'est le choc démographique, avec notamment 30% de la population qui a plus de 60 ans, et pour lequel 90% des Français souhaitent rester chez eux, en tout cas vieillir chez eux jusqu'au bout, entre guillemets, lorsqu'ils peuvent. Donc oui, la rénovation énergétique, enfin la rénovation au sens large, c'est ça, donc avec des enjeux extrêmement forts.
Claudine Bichet, les politiques sont, j'allais dire, en première ligne sur les défis climatiques, sur le défi climatique, et plus encore lorsqu'on est dans les collectivités locales. Et Dieu sait que c'est un vrai sujet, puisque parfois on est un peu désarmé face à un pouvoir central qui se jacobinise, qui n'a cessé de vous ôter des relais de croissance, des recettes fiscales, on en a beaucoup parlé, et surtout en ce moment, avec ce fameux premier de loi de finances, avec l'augmentation des droits de mutation, notamment à titre onéreux. Et pourtant, tous les jours, les Français, je le sais, tapent à votre porte, viennent vous voir, vous administrer, pour vous dire, voilà, on est mal chauffé, mal logé, on a des problèmes d'infiltration. Ça a une incidence sur la santé publique, ça a une incidence sur le confort de vie. Comment, lorsqu'on est une politique aujourd'hui telle que vous le faites, avec les délégations que vous avez sur le défi climatique, vous y prenez pour accompagner les citoyens de la ville de Bordeaux, de la métropole?
Alors, le sujet de la transition écologique et énergétique est très vaste et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que face aux diverses tergiversations de l'État et sur la rénovation énergétique, il y en a quand même un certain nombre qui fait que c'est particulièrement compliqué aujourd'hui pour nos concitoyens de s'y retrouver. Les collectivités locales ont vraiment un rôle à jouer, ont un rôle déjà parce que ils vont être un premier point d'entrée dans le processus et en tout cas nous c'est ce qu'on propose ici à Bordeaux Métropole, c'est de proposer des espaces de conseil France Rénov qui sont totalement gratuits, indépendants et donc financés par la collectivité, qui vont donc pouvoir être un point d'entrée qui rassure. Parce que la rénovation énergétique, c'est compliqué, ça coûte cher, et on va en parler sans doute, il y a des fraudes et tout, donc il y a tout un processus qui s'engage, on rentre dans l'intimité des gens aussi, et le fait que le point d'entrée, ce soit la collectivité qui propose un conseil qui oriente, c'est vraiment gage de réassurance pour l'ensemble de nos concitoyens qui jugent que c'est important de rénover. Pour des questions de pouvoir d'achat, ça a été dit, pour des questions de confort de vie, de qualité de vie, parce que c'est aussi beaucoup ça. Et puis derrière, bien sûr, on n'arrivera pas aux objectifs climatiques si on ne divise pas par deux nos consommations énergétiques. Sur notre territoire de Bordeaux Métropole, les logements, c'est 30% de la facture énergétique du territoire. Donc, si on rénove pas, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs climatiques. C'est peut-être plus difficile à comprendre pour l'ensemble de nos concitoyens, mais c'est quand même un enjeu qui est très fort également dans ce sujet de la rénovation.
Vous avez raison de pointer l'injonction, parfois les injonctions qui sont des injonctions contradictoires. Je m'explique. Le Français, aujourd'hui, a vu se dégrader son pouvoir d'achat, a vu passer le logement comme étant la première charge contrainte du ménage des Français. Elle est passée de 18%, selon l'INSEE, à 26%. C'est donc une charge vraiment extrêmement contrainte. Et l'énergie, il ne faut pas se leurrer, elle augmente. Et elle a augmenté.
Et elle va encore augmenter.
Et à côté de cela, on a une planète à sauvegarder. On est tous d'accord là-dessus. On veut tous préserver la planète, on veut tous prendre un soin particulier. Néanmoins, la vie des Français est largement altérée par ces problématiques de pouvoir d'achat. Et c'est important que vous, les élus locaux, vous vous empariez justement de cette problématique. Alors justement, Julien, à l'instar de ce que vient de nous dire Claudine Bichet, vous avez un rôle qui est majeur. Eh bien, écoutez, dans le sondage, on en parlera avec Laurent, c'est à vous que d'abord les Français font confiance. Et c'est unanime. Expliquez-nous un petit peu, de façon très concrète, quelle est votre mission au quotidien, vous, dans votre territoire?
Alors nous, en tant qu'espace conseil France Rénov, notre rôle, c'est de conseiller et d'accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc il faut voir ça comme un service public de la rénovation énergétique. Très concrètement, on est là.
C'est gratuit. Hein.
C'est gratuit, tout à fait. On donne du conseil.
Tous les Français peuvent vous appeler. Non, d'ailleurs, on donnera vos coordonnées, bien évidemment. On vous appelle. J'ai un sujet. J'ai du mal à savoir qui, comment, de quelle façon. Je vous appelle, vous l'aidez.
Tout à fait. On est là pour aider le particulier à définir un projet de rénovation énergétique qui soit pertinent et qui réponde à ses contraintes budgétaires, réglementaires, etc. Donc, on va faire un conseil technique sur l'isolation, le chauffage, les énergies renouvelables, en passant par la réglementation, la ventilation, et on va l'orienter, l'aiguiller vers les différents dispositifs d'aide financière qui l'aideront à mener à bien son projet de rénovation énergétique. On est là, en fait, pour l'aider à y voir plus clair dans ce domaine qui est très complexe, effectivement, pour un non-initié, le rassurer, l'accompagner et l'orienter dans la bonne direction et vers les bons interlocuteurs.
Est-ce que vous allez jusqu'à monter un dossier de financement? Est-ce que vous vous dites, vous avez droit à telle aide, je peux m'en occuper, je vais vous dire comment faire de façon très sympathique, très prosaïque?
Alors oui, effectivement, on peut aider le particulier à définir un plan de financement, hein, lui dire par rapport à tel projet, vous aurez droit à tel et tel dispositif d'aide financière. On peut aller jusqu'à monter des dossiers d'aide financière pour certains particuliers, on ne le fait pas tout le temps, mais ça peut effectivement faire partie de certaines de nos missions.
Jean-Yves Labat, les artisans sont en première ligne. D'ailleurs, tout à l'heure, on va en parler avec Laurent. On voit que dans le top 4 ou le top 5 préféré des Français à qui on fait confiance, les artisans viennent en troisième position. Donc, on voit que l'artisan de proximité est un relais essentiel dans l'action quotidienne que vous menez dans les politiques locales, et notamment dans ce que vous faites. Et vous, Julien, vous le savez, puisque forcément, vous prescrivez un plan de travaux, vous prescrivez des idées, et il faudrait bien trouver les artisans. Des artisans, encore faut-il qu'ils soient labellisés, encore faut-il qu'ils montrent patte blanche, effectivement, dans leur démarche. Et puis, ça coûte aussi un certain prix. Comment vous, qui êtes le représentant de la CAPEB, qui vous aide, vous représentez les artisans du bâtiment en France notamment, vous vous y prenez et vous arrivez un petit peu à cheminer. Je vous voyais au Pinet du Chef tout à l'heure, quand Julien parlait des méandres parfois en disant comment accompagner, vous aviez l'air de dire oui, c'est bien
oui,
le cas.
Oui, mais ce que vient de dire Julien, on est tout à fait en phase avec cela. Nous, les artisans, la première des choses, on est là pour déjà, dans un premier temps, conseiller les différents, maîtres d'ouvrage que l'on rencontre, notamment des particuliers. La plupart du temps, les rénovations énergétiques, on est au contact de familles lambda, quoi. Et donc, déjà dans un premier temps, on essaie de les conseiller et de les inciter à aller sur des espaces comme celui de Julien, parce que il faut savoir que c'est quand même relativement complexe. Et nous, le temps qu'on passe à faire des papiers, ben, on ne peut pas faire de l'isolation ou on ne peut pas poser une pompe à chaleur ou autre. Voilà, donc le contact qu'on a avec les maîtres d'ouvrage, la plupart du temps, c'est très simple. Quand on est sollicité par ça, on leur explique déjà, dans un premier temps, que l'énergie qu'ils ne consomment pas, c'est des économies qu'ils font. Donc ça, on essaye déjà de les sensibiliser à ça. Et ça, c'est le premier point. Et le reste a été évoqué aussi, c'est le bien-être. À partir du moment où on a une ventilation qui fonctionne correctement, on a moins d'humidité, il y a plus de confort dans la maison. Et donc, forcément, on vit beaucoup mieux. Le problème aujourd'hui, c'est que dans tous les habitats insalubres, il y a beaucoup de contraintes et des fois, c'est compliqué de ramener d'un habitat insalubre à quelque chose de correct, quoi.
Est-ce que pour vous, les artisans, qui avaient beaucoup souffert avec la crise du logement, et notamment la crise de la construction de logement, parce qu'en France, on est depuis 2 ans dans une crise grave, extrêmement grave, du logement et de la construction de logements neufs, il n'y a qu'à voir que le marché locatif privé arrive à un point de tension jamais connu, y compris sur votre métropole, vous le savez, qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a 2,5 millions de Français qui attendent un logement social, 4,5 millions de Français mal logés, et on voit, au 1er janvier 2025, le retrait des appartements avec une étiquette G, impropre à la location, qui représente dans certaines métropoles un tiers du volume. Quand vous voyez certains politiques qui vous disent bon, effectivement, on construit moins, mais avec le chantier de la rénovation énergétique, vous allez vous refaire la cerise. C'est du concret ou alors on vous balade un peu?
Alors, je pense qu'on nous balade un peu. Et pour moi, perso, quand on parle de tout ce qui est passoire énergétique classé F ou G, on voit qu'un propriétaire sur 5 préfère ne pas louer l'appartement ou sa maison et laisser le bien vacant. Donc, et comme il n'a pas les moyens de restaurer, il ne cherche pas à faire de travaux de quoi que ce soit. Donc, en fin de compte, c'est vrai qu'il y aurait du marché, mais derrière, financièrement, certains ont peur de ne pas s'y retrouver, manque de confiance.
Et, pourtant, il y a des aides, et pourtant, il y a un dispositif, ouais. Et notre pays est absolument incroyable de ce point de vue-là. C'est d'ailleurs intéressant, Julien, vous voyez la déconnexion parfois entre la perception des Français et la réalité des dispositifs. Mais je vais revenir sur ce sujet. Claudine Bichet, si je vous demandais justement comment se trouve aujourd'hui le parc globalement, alors je le sais un peu, j'ai posé la même question au maire, mais est-ce que la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, la métropole est plutôt une bonne élève en matière de rénovation énergétique des logements?
Alors, on a un parc qui est, enfin ici sur la métropole, un parc de 400 000 logements, dont une grande partie a été construite avant la première réglementation thermique. Donc, on est, je pense, à l'échelle, j'ai pas en tête toutes les métropoles de France, mais bon, avec majoritairement des étiquettes qui vont de D à G. Alors, on est plutôt pas trop mal sur les étiquettes les plus basses, mais on a clairement un enjeu de rénovation. On a aussi des logements qui sont en situation de précarité énergétique, 37 000 logements, pour qui la facture énergétique et les questions d'insalubrité peuvent se poser, sur lesquels on a un sujet et un enjeu d'agir pour la justice sociale, puisque là, on voit bien qu'on est dans des situations de foyers qui subissent fortement l'état de leur logement et qui n'ont pas forcément les moyens, puisqu'ils ne sont pas propriétaires, de pouvoir décider de les rénover. Donc, du coup, on a ce parc. On est depuis 2020, on a mis en place un accompagnement extrêmement volontariste avec des objectifs de rénover 11 500 logements de manière performante tous les ans. C'est un objectif très ambitieux, on n'y est pas encore, on est sur une pente ascendante et c'est ça qui nous permettra en 2050 de pouvoir tenir l'objectif de la neutralité carbone sur la réduction de nos consommations énergétiques. Et donc pour arriver à ce volume de 11 500 logements, on vient compléter le dispositif d'État, donc en premier lieu avec le financement des espaces de conseil France Rénov' de notre territoire, où c'est la collectivité qui finance ce point d'entrée, ce conseil neutre, gratuit, indépendant, qui va pouvoir donner une première orientation aux ménages. Ensuite, on investit fortement dans toutes les études préalables aux travaux, puisqu'en fait, pour que les gens se lancent, il faut qu'ils comprennent. Et pour comprendre, il faut avoir un audit, il faut avoir toutes ces phases-là. Donc là, la collectivité investit énormément, voire même finance quasiment l'intégralité de ces audits, investit aussi pour les copros sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sans laquelle on sait bien que dans une copropriété, c'est quasiment impossible d'y arriver. Donc là, on est vraiment sur des niveaux de financement qui sont extrêmement élevés, de manière à vraiment faciliter le passage à l'acte. Et ensuite, on intervient aussi sur le volet travaux, où on a des prises en charge qui vont quasiment dans les limites de ce que nous autorise l'État, donc en complément des aides d'État. Et donc, on a des aides qui sont extrêmement intéressantes, puisque en moyenne, sur notre territoire, le reste à charge, tout foyer, type de revenu confondu, est en moyenne de 20%. Donc, c'est quand même pour dire qu'on pousse le curseur des aides extrêmement loin. Sachant que pour les foyers très, très modestes, on a des restes à charge qui sont proches de zéro, puisqu'on a mis en place des fonds de solidarité climat, justement, pour essayer de débloquer les situations les plus problématiques où les foyers ne peuvent tout simplement pas financer une rénovation. Donc, on est vraiment dans cette logique de pousser très, très loin tout le système d'accompagnement et d'aide financière pour vraiment favoriser au maximum les rénovations du territoire. Globalement, les résultats sont encourageants. On voit sur les copros notamment une hausse très importante. On a fait x4 sur le nombre de copropriétés qui s'engagent dans le processus de rénovation depuis le début du mandat. Donc, je pense que ça illustre quand même de la dynamique. Après, effectivement, quand bien même nous sommes extrêmement volontaristes sur notre territoire, on a un certain nombre de freins qui subsistent, qui doivent être levés si on veut vraiment que la rénovation soit un parcours simple et que les gens, que ce ne soit pas un repoussoir, parce qu'on a ça aussi comme retour, c'est que les gens ont encore très peur de s'engager, tant c'est un parcours compliqué, qu'on a peur du professionnel face auquel on va se retrouver, que les aides d'État, c'est compliqué, que ça change tous les 6 mois et que du coup, on est dans une incertitude en permanence de savoir comment on va pouvoir être véritablement soutenu financièrement. Et donc, on voit que c'est encore compliqué, mais territorialement, on fait tout ce qu'on peut.
Alors, j'aime beaucoup ce que vous dites, parce que je décèle la passion de l'engagement de l'élu. Nous qui voyons chaque semaine tous les maires de France, on sera à Dax la semaine prochaine, d'ailleurs on va aller dîner chez Jean-Yves. et c'est vrai qu'on a un engagement important des élus. Néanmoins, on a un tissu d'artisans aujourd'hui qui parfois souffre avec la complexité administrative, vous l'avez dit tout à l'heure Jean-Yves. Cette complexité, soyons pratiques, administrative, qui pèse lourdement sur des TPE qui ont moins de 5 salariés, qui est quand même un tissu très important d'artisans de proximité. Clairement, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, on le compte y est, ou qu'est-ce qu'il faudrait, si jamais ce n'était pas le cas, faire pour que ça puisse s'améliorer? On voit que la métropole s'engage. Et je vais vous dire une chose, dans le top 10 des meilleures métropoles qui ont fait un acte significatif de rénovation énergétique, vous arrivez en 4e position. Donc ce qui prouve que vous avez véritablement engagé, comme tous vos collègues, maires de France, élus locaux, le font. Jean-Yves Labat.
Alors, la charge de travail est relativement importante parce que non seulement il y a les dossiers que l'on doit accompagner et c'est, je dirais, un peu compliqué. En plus, on a bien sûr toutes les qualifications que l'on doit faire entre les audits, les renouvellements de qualifications et tout ça. Et à l'époque du numérique, on vous redemande pas votre extrait de naissance, mais vos numéros de qualification et prouver qu'on a bien eu son QCM et compagnie. Donc, c'est aberrant de revenir toujours sur les mêmes dossiers, reconstituer toujours le même dossier. Donc là-dessus, c'est fatigant. Et résultat opération, on parlait d'un marché de la rénovation.
Vous avez l'impression qu'on vous aide ou pas ? À y voir plus clair. Non. Ou est-ce que vous avez l'impression, au contraire, qu'on complexifie votre action ?
Je dirais qu'aujourd'hui, alors, il y a plusieurs soucis. Le premier, c'est que, on le voit de suite, hein, si on regarde il y a 5-6 ans, on devait être plus de 10 000 artisans éco-RGE en place.
Reconnus garants reconnu de l'environnement.
Garant qui est le label. Hein. Qui est le label. Aujourd'hui, je crois qu'on on a perdu 10 000. On en a perdu 10 000 en... Ouais, parce que la fatigue administrative... Ouais, on en a perdu énormément.
Et attendez, perdu, ils n'ont pas arrêté leur activité. Ils se sont délabellisés. Et continuent à travailler sans label.
Et ils continuent à travailler sans label parce que certaines entreprises font de la rénovation énergétique chez des clients qui n'attendent pas après ma prime rénov, qui n'attendent pas après...
Parce qu'ils leur font confiance, ils savent qu'ils bossent bien. Voilà, et qu'ils leur disent, bon écoutez, t'es gentil, mais moi le label, c'est trop lourd. Par contre, tu sais que je travaille bien et donc du coup, je suis en confiance
tout à fait.
Avec cet artisan, je le fais travailler. Et je mets même une croix sur les aides.
De toute façon, moi le premier, j'ai proposé des certificats d'économie d'énergie à des clients, ils n'étaient même pas au courant. C'est pour vous dire. Donc voilà. Donc on pense que la circulation, l'information va jusqu'en bas, mais ce n'est pas le cas. Et ce que je voulais dire à d'autres aussi, c'est que il y a la possibilité de faire ça en deux parties. Soit on fait payer la totalité de l'intervention et l'aide arrive au client pour le C2E, soit on défalque le C2E de la facture et donc on lui fait directement l'avoir. Et c'est l'entreprise qui fait le C2E. Et comme ça, il y a des entreprises qui se mettent dans des difficultés financières énormes parce que entre le moment où le chantier est fait et pour vous donner une idée, moi, j'ai eu des retards avec un obligé aux 2 ans et demi.
Oui. Alors, il faudra rappeler, on en parlera tout à l'heure, parce que Jean-Yves, vous avez dit une chose très importante. Vous avez parlé des C2E, les certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif de financement privé. Privé. Oui. C'est-à-dire que le principe de ce qu'on appelle les pollueurs-payeurs. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les quotas de carbone. En fait, ce sont des émissions des pollueurs pour lesquels on compense en argent. Et donc, il y a deux types d'opérateurs. Il y a ce qu'on appelle les délégataires et les mandataires. Et c'est eux, en fait, qui diligentent les travaux, qui vous financent, avec des encours parfois absolument intenables. Enfin, moi, je ne connais pas une entreprise qui a 2 ans de trésorerie.
Alors, ça ne représente pas 2 ans de trésorerie, mais...
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, pour vous faire payer, c'est un peu la bannière. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous nous donnez un regard très prosaïque, très concret, de ce que vous vivez en réalité, et c'est vrai. Claudine Bichet, vous le savez également, et Julien Kozik également. On vit depuis 2 ans une délabellisation du label RGE massive. Il n'y a pas que la CAPEB qui le dit. C'est la FFP, c'est toutes les organisations qui leur disent que ça devient intolérable, insupportable, car la capillarité géographique et la configuration de ces PME-TPE ne leur permet pas d'absorber. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces artisans qui sont essentiels pour la rénovation énergétique, Julien Kozik?
C'est une très bonne question.
Votre avis. C'est pas une question piège, mais voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous améliorez les choses? Je sais qu'à l'ANA, vous faites tout pour essayer d'améliorer, de fluidifier.
Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut peut-être reporter, on va dire, ce travail administratif qui n'est pas, leur métier de base. Un artisan, il pose de l'isolant, etc., etc. Et je pense que tout ce travail, tout cet à côté, toute cette charge de travail supplémentaire qui est, on va dire, porté par les artisans, ça doit être, on va dire, d'autres structures qui doivent le faire. Et il faut aussi simplifier les procédures.
Les fameux Mon Accompagnateur Rénov ont aidé aussi beaucoup, hein, bien évidemment. Justement, avant de rendre l'antenne, puisqu'on va bientôt être en direct sur Sud Radio, Claudine Bichet, qu'est-ce qu'on peut répondre à nos amis artisans dont on a besoin tous les jours dans le territoire ?
Oui, on en a vraiment besoin pour la réno. On en a besoin en plus à l'échelle locale, puisque en général, l'artisan qu'on choisit, c'est vraiment... Enfin là, on est vraiment dans de l'économie ultra localisée. Donc, on a besoin d'avoir tout cet écosystème qui est favorable à la rénovation. Et effectivement, si on n'a pas les artisans, on n'a pas de rénovation. Ça va de soi. Donc, je constate tout comme vous, et c'est assez déplorable qu'on a cette baisse de labellisation qui pourtant est essentielle parce que c'est vraiment un gage de qualité de travaux qui permet de se dire, on prône, comme je l'ai dit, des rénovations performantes. On va vraiment encourager que la rénovation soit la plus globale et performante possible. Donc, la labellisation permet aussi de s'assurer que l'artisan a bien les connaissances requises et le savoir-faire qui permettra de faire cela. Si on a plus repères, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est effectivement très dommage qu'aujourd'hui, on soit face à ce courant-là. Et les solutions, vous en avez donné un certain nombre. Effectivement, il y a globalement les processus administratifs qui sont très lourds pour les artisans, mais aussi pour les particuliers qui se lancent dans la rénovation. Donc là, je pense qu'on a vraiment un sujet administratif majeur qui est un repoussoir, hein, très sincèrement. Faire le parcours MaPrimeRénov, non mais il faut le vivre pour le croire.
J'adore. Merci de le dire. On est d'accord, Jean-Yves. Ça a le mérite d'être direct. Hein.
Parfait.
On a une élue qui n'a pas de langue de bois, là.
Voilà, non, surtout sur ce sujet. Non, parce qu'en fait, si on se dit, et si l'État se dit, et c'est là où il se contredit, que la rénovation est une priorité politique, on doit faire en sorte que ça soit quand même accessible et facile pour les gens. Là, on est à des années-lumière de ça. Donc là, pour moi, il y a un énorme sujet. Il y a des choses qui sont allées dans le bon sens. Mon accompagnateur Rénov, pardon, est une dynamique qui va plutôt dans le bon sens de donner les moyens d'un accompagnement pour une rénovation globale. Néanmoins, on voit bien que ce n'est pas suffisant et que on n'est pas encore dans des parcours d'usagers qui sont suffisamment rassurants pour que les gens aient vraiment envie de se lancer sans aucune arrière-pensée.
C'est extrêmement clair, donc ça augure bien du débat justement qui est à suivre. Justement, Laurent, on va parler tout à l'heure sur Sud Radio, on se rend à l'antenne à 19h05 exactement, notre ami Cécile Vanhoenaye, pour justement parler sur ce premier sujet, et je sais que Jean-Yves a beaucoup aimé, c'est comment et à qui faire confiance compte tenu de tous ces éléments. Vous allez rester avec nous d'ailleurs, Claudine, sur le plateau, parce que nous allons accueillir d'autres professionnels, et bien sûr Jean-Yves, vous restez avec nous pour parler de tous ces sujets. On en parle dans quelques instants, on se retrouve sur Sud Radio et Radio Imo tout à l'heure, dès 19h05.
Parlons éco-rénovation, le tour des régions avec Sofinco, Sud Radio et Radio Immo.